Audiolib présente Meurtre sur la Tamise, Les Dames de Marlowe, tome 4. De Robert Thorogood, traduit de l'anglais par Sophie Brissot, lu par Rachel Arditi. Des grilles de mots croisés, que vous pouvez télécharger sur notre site internet, ont été spécialement créées pour accompagner cette histoire. Au cours de l'enquête, lorsque vous entendrez ce son, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre votre lecture en pause et remplir les grilles pour vous immerger davantage dans l'histoire. À Eileen Brethwick, 1934-2024. Chapitre 1. Une fois par an, Mrs. Judith Potts se plaisait à battre les limites de sa propriété. C'était une ancienne coutume que l'on pratiquait dans le village de l'île de Wight, où elle avait grandi. Dès son arrivée à Oxford, elle avait eu l'agréable surprise de découvrir que son collège universitaire, Somerville, observait aussi cette tradition. Pour cela, il fallait d'abord trouver un grand bâton, puis s'en servir pour battre le périmètre entier d'un territoire. Bien entendu, il s'agissait pour Judith de s'assurer officiellement qu'aucun voisin n'avait empiété sur son terrain durant l'année passée, mais pour elle, c'était aussi un exercice de géopsychologie, comme pour dire « Ceci est mon monde, à l'intérieur de ses limites, je me sens en sécurité. » Elle attendait toujours l'équinoxe d'automne pour accomplir ce rituel. C'était, selon elle, le moment idéal pour s'assurer que tout était en ordre dans sa vie avant de se terrer pendant les longs mois d'hiver. Tout en cherchant une branche de taille appropriée dans le petit bosquet près de sa maison, elle considéra la météo du jour et la trouva d'une banalité remarquable. Il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas froid non plus, on ne sentait qu'une très douce brise qui faisait bruisser les cimes des arbres et le ciel était d'un gris uniforme. L'air était doux. Doux, c'était le mot. Judith détestait le mot « doux ». Elle n'avait même pas eu l'occasion de revêtir sa cape en laine, tant les températures étaient douces. Elle adorait porter cette cape, surtout pour battre les limites de son terrain. Quand elle l'avait sur le dos et qu'elle agitait son grand bâton dans tous les sens, de préférence dans les rafales d'un vent d'orage, elle se sentait comme D'Artagnan ou Edmond Dantès. Elle avait beau être une femme de 79 ans, un peu replète, cela ne l'empêchait nullement de s'imaginer en héroïne d'un roman de cap et d'épée. Certaines années, Judith cherchait plutôt une baguette fine et souple pour attaquer les hautes herbes et les orties qui croissaient autour de son jardin. Mais cette fois-ci, elle fut enchantée de trouver au sol une branche nettement plus épaisse, plus lourde, avec de la masse. Elle la ramassa, noueuse et tordue à souhait. « Ah oui !» se dit-elle. « Ce sera parfait !» Elle allait en faire du dégât avec ça. Elle commença à parcourir l'allée principale de son jardin, son bâton à la main, s'arrêta un instant pour prendre le verre de whisky en cristal taillé qu'elle avait posé sur une mangeoire à oiseaux brinque-ballante, puis, son bâton dans une main et le verre de whisky plein à ras-bord dans l'autre, elle se mit à frapper le sol autour des limites de sa propriété, ou autant qu'elle pouvait s'en approcher. Elle eut le plaisir de constater que la haie de laurier-cerise qui longeait un côté de sa maison la dépassait en hauteur de plusieurs mètres et s'étendait joyeusement dans tous les sens. Puis elle traversa avec précaution un amas de palettes en bois disloquées, dont elle ne se rappelait l'existence qu'une fois par an, ce jour-là en particulier, et comme toujours, elle se promit de demander à quelqu'un de l'en débarrasser, tout en sachant qu'elle ne prendrait jamais cette initiative. Enfin, Judith posa le pied sur l'épais gazon de sa pelouse et sourit de satisfaction. Le gigantesque feu de joie qu'elle avait allumé dans son jardin ne datait que d'un peu plus d'un an, mais on pouvait encore en distinguer les traces. Un grand cercle d'herbe, beaucoup plus touffu et d'un vert plus vif, se détachait au milieu de la pelouse. Pensive, elle but une gorgée de son whisky et descendit vers le fleuve en contrebas de son jardin, traînant la branche derrière elle. Sa vie avait considérablement changé depuis qu'elle y avait laissé entrer Bex et Suzy, et qu'elle s'était mise à traquer les assassins ensemble.